D'abord, si les
jeunes permettent à celui qui est le plus âgé d'entre vous tous, c'est-à-dire moi, s'ils permettent une proposition humble, je dirais aux jeunes que la jeunesse n'est pas une raison de s'enorgueillir. Il n'y a pas une fierté dans la jeunesse. Aucun âge n'est fier. Nous sommes pauvres devant la porte du royaume et dans l'église, donc nous sommes tous ensemble. Pourtant, nous avons créé au patriarcat d'Antioche le mouvement de la jeunesse orthodoxe. Je suis un des fondateurs et avec ça, je suis encore dans le mouvement, si vous voulez. Bon, si vous me permettez, ce qui va vous sembler une anecdote, mais ça n'en est pas une, c'est un texte du prophète des musulmans, Mahomet, il dit qu'au ciel, au paradis, on ne parle que l'arabe. On ne parle pas non plus grec, ni roumain, ni quoi que ce soit, ni finlandais, monseigneur, je veux dire ni flamand. J'ai été récemment fasciné par la parole de l'apôtre Paul quand il dit « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Je vous apporte une exégèse comme ça, littéraire si vous voulez, peut-être pas très scientifique. C'est que vous savez bien que les adultes que l'on baptisait donc dans les fonts baptismaux descendaient par un escalier et ils étaient immergés par le diacre qui les accompagnait et le prêtre ou l'évêque là-haut disait les paroles du baptême. Donc le serviteur de Dieu, un tel, est baptisé. Et quand ils sortaient, ils étaient revêtus d'une robe blanche, comme d'ailleurs l'on fait pour les enfants actuellement. La robe blanche, donc, les couvrait. On ne voyait pas leur corps. On voyait la robe blanche, c'est évident. Enfin, il y avait le visage. La robe blanche qui est celle que le Seigneur a revêtue au mont Tabor, et qui donc, au mont Tabor, selon la doctrine de Saint Grégoire Palamas, ce sont les énergies divines incréées qui ont été manifestées sur cette montagne de la Transfiguration, qu'elle fût Tabor ou l'Hermon. Moi, je suis partisan de l'Hermon parce que je suis libanais. Non, mais parce que l'exégèse le permet, elle est plus... Elle le permet davantage. Mais, donc il n'y a pas de grec orthodoxe, ni de russe orthodoxe, ni d'arabe orthodoxe, ça n'existe pas. Nous avons eu une fois dans les coulisses du Saint-Synode une discussion au sujet de l'identité juridictionnelle des orthodoxes. Ma position était très simple. On n'est pas à New York antiochien orthodoxe, ça n'existe pas. On est antiochien en Syrie, Liban, l'Irak, etc. Ce n'est pas une identité qui vous colle à la peau, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'il y ait une certaine continuité culturelle, je le veux bien, ça existe. Si vous prenez par exemple notre mouvement de la jeunesse orthodoxe, sans le savoir et sans l'étudier, nous avons à peu près adopté, sans avoir lu Saint Jean Chrysostome à l'époque, quand nous avions 17 et 18 ans, nous avons adopté, sans le savoir, l'exégèse de Saint Jean Chrysostome. C'est-à-dire que nous lisions le texte et nous essayons de l'analyser. À l'époque, nous ne savions pas le grec classique. Il y avait une espèce de goût particulier de la liturgie, etc. Bon, ce sont des choses qui vous embellissent. Ce sont des traditions locales qui vous embellissent. Le peuple russe est surtout connu comme étant très liturgique et très doué pour la liturgie. Je pense que tous les orthodoxes le sont, mais d'une manière particulière. Je pense que la sensibilité poétique des Russes et la sensibilité artistique à la liturgie les a prouvés d'une production théologique pendant des siècles. Pendant des siècles. Bon, ça existe, pourquoi pas? Pourquoi pas? On tolère qu'ils soient comme ça. Que les Grecs qui ont lu Platon, Aristote, Plotin, etc., et dans l'orthodoxie, un esprit particulièrement structuré, qu'il soit peint, etc., c'est une richesse pour tout le monde. Mais je dirais donc, parce que là, bon, nous sommes en train de poser, je ne vais pas naturellement prendre votre temps, nous sommes en train de poser le problème de la relation de la culture et de la foi. Il y a un vrai problème là-dedans. Platon a-t-il, comment dire, préparé le christianisme ? Je le crois personnellement, quand il dit par exemple que la beauté et la splendeur de la vérité. Là, il m'a corrigé, tout vieux que je suis. Moi, je considérais dans ma jeunesse et un peu plus tard que la beauté était assez indépendante de la vérité. Il y a une beauté dans le mal, il y a une beauté dans la laideur, il y a une esthétique. Je sentais comme ça, il y a une esthétique indépendante de la vérité, jusqu'à ce que j'ai trouvé dernièrement, parce qu'on relit les auteurs classiques, jusqu'à ce que j'ai trouvé que la beauté, pour Platon, était la splendeur de la vérité. Il m'a converti à ça, j'ai abandonné mes anciennes connaissance de ma sensibilité indépendante à l'esthétique, indépendante. Donc, si vous voulez, on prend pas mal de choses de la culture, mais de même que la culture peut empêcher quelqu'un d'adhérer à la foi ou lui rendre la vie de la foi difficile et donc si vous voulez comment faire maintenant que dans le synodicon de dimanche de l'orthodoxie Platon est anathème. Bon, que faire quand tous les pères ont lu Platon et si vous savez vraiment enfin la liturgie jusqu'au bout de vos ongles, vous voyez très, très bien que c'est du platonisme à l'état pur. Enfin, un évangile, c'est, la liturgie, c'est un évangile platonisé, etc., présenté. Que faire, alors? Est-ce qu'il y a une foi tout à fait détachée, libre, nue, une foi nue en Dieu? La question que je me posais était celle-ci. Il y a un livre en France qui s'appelle « La philosophie hébraïque ». Est-ce qu'il faut... Bon, si nous voulons être précis, mais je ne vais pas donc prendre votre temps. Est-ce que nous devons convertir les peuples au sémitisme pour qu'ils comprennent l'Ancien Testament? Je sais, moi, comme arabe, que je saisis parfaitement... Je saisis dans ma sensibilité, dans mes nerfs, si vous voulez, ce qui est dit dans l'Ancien Testament et que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas faire, parce que vous êtes des Ariens, vous n'êtes pas des Sémites. Que faire alors? Baptiser les Africains dans le sémitisme, les baptiser dans l'hellénisme comme étant un prélude. Alors, baptême en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais qu'il faut les baptiser en Christ seulement pour évangéliser. Alors là, je suis précis. Si vous me permettez une petite vanité ou une grande vanité, simplement pour faire comprendre ma pensée, c'est comme me dit... Vous aimez beaucoup la langue arabe. Les gens pensent comme ça, parce qu'ils pensent que j'écris bien cette langue. Je leur dis, je n'aime pas du tout la langue arabe. Je la connais assez bien, parce que personne ne la connaît dans le monde. Enfin, nous sommes quelques-uns à la connaître. J'ai étudié parfaitement cette langue, pour la mettre au pied de Jésus-Christ cloué sur la croix et qui, d'après Isaïe et notre lecture biblique de la Semaine Sainte, il n'a pas de visage, il n'a pas de beauté pour que nous le désirions. Jésus n'a pas de beauté. Ne lui attachez pas quelque chose de petit comme ça, de petit dessin culturel ou autre. Aller embrasser ses pieds, nus, ensanglantés, comme bédouin, c'est-à-dire comme un homme qui ne possède rien, qui ne connaît rien en dehors de Jésus de Nazareth, et qui prend toute sa connaissance véritable, profonde, aveuglante de lumière, qu'il apprend du sang versé sur la croix et de la lumière taborique. Merci.